Second plateau de la journée en direct du festival 48e de rue sur 48FM. En tout cas, on ne peut pas se tromper de département. Hein. Et on est installé dans la cour de l'école Jean Bonijol, toujours avec Adèle à l'animation.
Salut.
Ludo à la technique.
Il n'a pas de micro, mais il dit salut aussi.
Voilà. Et moi-même qui représente Radio Bartas. Alors, on accueille là la compagnie La Chaloupe avec leur spectacle Octobre. Il y a Cécile, Anaïs et Samuel qui sont présents. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Et on a aussi avec nous, on en parlera un peu plus tard, mais on a Yves qui est là aussi, musicien. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, on va commencer avec un petit teasing de votre spectacle pour mettre un peu en bouche. Alors, Octobre est un spectacle de théâtre pour la rue porté par 6 comédiens et comédiennes. Pensé comme un parcours, il nous raconte l'effervescente et fraternelle histoire du groupe Octobre, une troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur Jacques Prévert. Il entremêle l'histoire politique et sociale à celle de ce groupe d'agitation propagande qui, de 1932 à 1936, s'exprimait à travers un théâtre populaire qui sonnait comme un outil de lutte et d'émancipation des travailleurs. Ça vous va ?
Bah oui.
Ouais, c'est pas mal.
Précis.
Ouais, c'est pas mal.
Alors, votre compagnie, elle existe depuis 1983. Samuel, tu peux nous parler un peu de cette compagnie ?
Oui. Bah oui, en fait, elle a été créée donc bientôt il y a 40 ans. Voilà, deux de nos fondateurs, Alain et Joël, qui l'ont créée et donc qui ont tout de suite pensé cette compagnie comme un outil collectif. Donc en fait, on s'y préparait la continuité de la compagnie. Donc à l'heure actuelle, ils sont quatre à la direction artistique et on est deux à l'administration et on est vraiment sur une direction collégiale où on porte le théâtre, que ce soit dans la rue, en salle. L'idée, c'est vraiment d'être sur mouvement d'éduc pop et pour tous.
Et du coup, votre compagnie existe depuis 1983, c'est ça ?
Ouais.
Corto, t'as fait la même bêtise que moi tout à l'heure, je viens de poser la question, il n'a pas écouté.
Ah là, non, putain, désolé,
c'est pas
désolé.
Grave, c'est chacun son tour ici.
Ah, désolé. du coup, vous êtes basé à Niort, ça fait un bout de route quand même pour venir.
Ouais. Alors après, en plus, sur la particularité de ce spectacle-là, c'est qu'en plus, tout le monde n'est pas basé à Niort.
D'accord.
Donc là, on a Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Niort quand même, il y en a un peu de Niort. Hein. J'en ai oublié de... Non, mais voilà, ouais, Paris, ouais, c'est ça, les gars. Donc on est un peu partout.
Ah oui.
Et oui, ça fait un peu de route, mais on est content d'être là.
Vous étiez déjà venu en Lozère avant pour vous trois ?
Moi, je suis allée au festival d'Olt.
D'accord, Bléma. Ok.
Ouais. Enfin, plusieurs
moi,
fois.
J'ai joué là l'année dernière, si je dis pas de bêtises, avec une autre compagnie.
D'accord, ok. Voilà. Et Samuel, la Lozère ?
Alors moi, je suis venu à spectacle recommandé, organisé par la Ligue. Et du coup, on était programmé normalement en 2020. Donc il y a eu aussi du report de report, on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas. Hein.
Oublié.
Vous êtes basé à Niort pour une partie de vous et on avait une petite question concernant un auteur qui a un jour écrit que Niort était quand même une ville très laide. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle.
Oui, oui. chacun son avis. Hein. Après, moi j'y vis et j'y vis très bien. Après, les goûts sont dans la nature. Et,
Moi, je connaissais pas Niort et franchement, je trouve ça un peu sévère.
Ouais. Michel Houellebecq, si tu nous entends.
C'est une ville tout à fait charmante.
Et l'office de tourisme s'en est servi justement pour dire n'en déplaise à Houellebecq. Notre ville n'est pas si moche que ça, en fait.
Bah voilà. Ouais.
Il y a le Marais Poitevin à côté, on vous le recommande, hein, surtout quand il fait chaud comme ça. c'est très agréable et voilà. C'est pas moi qui vous dirai du mal. Hein.
Niort pense aussi que Houellebecq n'est peut-être pas si charmant.
Moi, j'ai jamais rien lu de lui, donc je peux pas vous dire.
Lis comme ça, tu pourras te manger.
Ouais, non.
vous pouvez nous raconter un peu la création de votre spectacle, du coup ?
Eh ben ouais, on peut vous raconter. Ça a commencé par une rencontre, parce que du coup, ça, comme expliquait Sam, nous tous, les comédiennes et les comédiens, on a été réunis pour ce projet-là. On se connaissait pas les uns les autres, donc il y a déjà eu tout un temps d'audition, en tout cas de rencontre. Pour que Nico, le metteur en scène, il choisisse son équipe. Et puis après, on est parti avec un metteur en scène qui connaissait très, 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 très bien son sujet. Mmh. Parce que l'histoire du groupe Octobre, ça fait des années qu'il travaille dessus. Il en a fait un spectacle avec des amateurs parce qu'ils ont tout un gros pan de leur activité autour du travail de théâtre avec les amateurs. Il en a fait une lecture aussi avant qu'on commence à bosser nous. Donc il connaissait vraiment très bien son sujet. Il avait énormément de matière. Évidemment, la matière textuelle de Prévert et aussi lui, son envie de récit. Et puis, bah voilà, on a taillé petit à petit, on a taillé à l'intérieur. Aussi, nous, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître. Et puis, il y a vraiment un parallèle. Il souhaitait vraiment faire un parallèle entre la vie de troupe de ce groupe Octobre et puis notre réalité à nous de vie de troupe. Donc ça aussi, ça s'est imaginé, ça s'est inventé avec au fur et à mesure des mois de créa. Quoi. Plus on se connaissait, plus on passait du temps ensemble et plus ça, cette dimension-là, elle pouvait exister aussi. Et ouais, je dirais que on a travaillé à essayer de rendre dynamique et théâtral un récit très fort qui précédait presque l'envie de spectacle. Quoi, il y avait vraiment l'envie de porter cette histoire-là précisément. Nico, c'est quelqu'un de très militant aussi, très 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 militant. La Chaloupe dans son entièreté, c'est une compagnie très militante. Et du coup, il y avait aussi l'envie de porter ce récit-là pour porter une parole politique, de raconter des gens qui font du théâtre pour changer le monde.
J'ai rien à ajouter.
C'était très beau ce que tu viens de dire.
C'était parfait.
Bon, merci, on peut arrêter là. Non, mais alors ça parle de Jacques Prévert et tout l'univers aussi de ce que tu disais. Il y a aussi un truc intéressant, c'est en à peine une demi-heure de début de spectacle avec Octobre, finalement on se rend compte que tout le monde peut être Jacques Prévert. C'est ce que vous dites un peu aussi à un moment donné, c'est que Jacques Prévert c'est pas juste un vieux monsieur voilà, avec une casquette et une cigarette à la bouche, ça peut être aussi des femmes, ça peut être des enfants, ça peut être tout le monde en fait. C'est aussi ça le message un peu, c'est de dire tout le monde peut s'approprier Jacques Prévert.
Ouais,
en fait.
Et puis c'est ce qu'on a découvert, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert en travaillant là-dessus. C'est que c'est quand même une figure multiple. Moi, je le connaissais que par l'aspect vraiment très scolaire des choses avec le cancre, ce genre de texte-là. Et en fait, j'en ai découvert un aspect que je ne connaissais pas, beaucoup plus politique, engagé, etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de... C'est pour ça aussi qu'on dit ça. On dit que tout le monde peut être Prévert, c'est qu'il y en a...
Mais le Prévert dont on parle, ouais. En plus, dans le spectacle, il a 30 ans. Et en fait, à 30 ans, Prévert, c'était un forcené, quoi. C'était un anarchiste et un type très révolté. Et en fait, on connaît plus le recueil Parole, là. Quoi. Mais Parole, il était... C'est la fin de... Enfin, je sais pas quel âge il avait exactement, mais 60 ou... Il était beaucoup plus âgé et il était dans un autre rapport aussi. Après, il a toujours été engagé, hein, mais t'as pas la même personne à 30 et à 60. Donc c'est aussi... Cette séquence-là, elle a aussi pour but de raconter ça, quoi, de dire en fait Prévert, il a eu une vie. Dans sa vie, il y a eu plein de Prévert, quoi. Il n'y a pas juste eu le Prévert du recueil Parole, quoi.
Et on découvre à un moment donné dans le spectacle, j'ai écrit mes premiers poèmes d'amour. Donc, ce sont des poèmes que maintenant on connaît, mais voilà, au tout début en fait du groupe Octobre, il n'était pas du tout là-dessus, quoi.
Ouais.
Et Nicolas, pour nourrir toutes ses recherches et tout ça, est allé à la maison Prévert à Paris. Du coup, là, où il a eu accès aux archives pour avoir aussi tous les moments un peu d'anecdotes, de moments de vie du groupe, etc., pour aussi découvrir autre chose que le Prévert par les textes qu'on connaît, mais aussi par tout ce qu'il y a pu. Il y a un journal qui a été tenu par certaines personnes du groupe Octobre, et il s'est nourri de ça pour pouvoir montrer autre chose aussi et la personne qu'il était et pas que les textes.
Et pourquoi
il a été impliqué dans la résistance aussi,
Prévert?
Et que c'est donc pas uniquement un homme de parole, mais c'est aussi un homme d'action. Quoi.
Ouais, là, clairement, en plus, dans ce qu'on montre, nous, le visage qu'on montre de lui, c'était à l'époque du groupe Octobre, donc qui a duré 4 ans. Ce qu'on raconte dans le spectacle, c'est qu'en fait, quand il y avait c'est donc juste avant le Front Populaire, donc il y avait des grandes grèves et tout, et en fait, il se saisissait des événements de l'actualité, quoi, des grèves, voilà, et il écrivait du jour sur le lendemain, bam, il prenait le texte, il partait, ils allaient jouer sur les piquets de grève. Il y avait un truc hyper très ancré dans le réel, quoi. Peut-être assez loin de ce qu'on peut imaginer de la espèce de figure, espèce de visage de Prévert, là, que ça clope, dans son bureau en train d'écrire et tout. En fait, c'était vraiment une autre image aussi, quoi, un autre Prévert.
C'est des hommes d'action et ça montre bien le rôle des intellectuels aussi à cette époque-là, qu'on peut peut-être trouver assez fade dans notre période actuelle. Peut-être comparativement.
Ah bah il y a quand même des intellectuels aujourd'hui qui se mouillent, hein, des Annie Ernaux, des Édouard Louis. Il y a quand même des gens qui C'est pas les mêmes époques, quoi. C'est pas la même manière de faire de la politique, mais...
Et par rapport au spectacle que vous proposez, bon, même si le metteur en scène n'est pas là pour tout dire sur la recherche, là, quand vous faites votre spectacle, vous proposez plus d'une heure de spectacle, c'est une période précise où vous faites un peu... c'est sur combien de temps à peu près? Sur les 4 ans d'octobre, ouais. Du début à la fin? D'accord, donc on voit le début de la création, et aussi, est-ce qu'on voit aussi la fin ou ouais, c'est vraiment...
On est en train de tout spoiler la fin.
Ah mince ouais. Non, parce qu'en plus, j'ai pas vu la fin, promis, je vous assure.
Ça commence par le début et ça finit par la fin, tout simplement.
C'est une période quand même qui est assez courte, ouais. Et par contre, dans le spectacle, il y a d'autres choses qui se racontent, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure avec le parallèle entre la troupe qu'on est là et qu'on forme actuellement pour ce spectacle, ouais. Et le groupe Octobre, on fait aussi des liens, ouais. Avec les luttes actuelles. Parfois on en nomme et des fois on laisse les gens les imaginer. Mais en tout cas, il y a ce parallèle-là qui se fait, qui avance un petit peu communément. Parce que je pense que c'est aussi ça que Nicolas voulait raconter, ouais. Et porter. C'est pas seulement raconter quelque chose d'historique.
Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Nico, il nous dit souvent, encore ce matin, il l'a dit avant qu'on aille jouer, il dit souvent que, aussi je crois que ce qu'il veut interroger avec ce spectacle, c'est comment les artistes peuvent se saisir d'une parole politique. Donc tu vois, ça fait écho à ce que tu disais, mais là il parle de nous en tant que comédien et comment ce matin il a dit ça, il a dit comment avant qu'on parte jouer, il a dit comment le théâtre aujourd'hui peut et doit être politique, quoi. Et je crois que c'est une tentative, en tout cas, c'est une vraie tentative esthétique d'inventer un théâtre politique contemporain, quoi.
Et sur les 4 ans qu'il retrace, il a voulu, il a fait tout un travail, parce qu'il a fallu qu'il sabre, hein, sinon le spectacle il aurait pu durer.
Ah ouais, c'était l'enfer.
Au départ, non, mais il a dû faire le deuil de certaines choses, mais surtout, il a voulu montrer la partie texte, comme je disais tout à l'heure, de Prévert, etc. Et des événements forts aussi, qui n'étaient pas forcément des événements hyper engagés, hyper militants, mais aussi des moments de vie, pour montrer aussi que cette troupe-là, c'était aussi une troupe humaine. Et qui a vécu aussi comme n'importe quelle troupe qui part pendant 4 ans dans une aventure. Aussi, ils ont leurs déboires, ils ont leurs histoires de cœur, etc. Et il a essayé aussi de pouvoir représenter les deux dans l'écriture du spectacle.
Et justement, du coup, ça aborde un contexte social et politique des années 30. Vous trouvez que c'est des thématiques qui sont d'actualité encore ?
Légèrement, oui. Si on parle des fascismes, de l'individualisme.
Plus que jamais, je crois.
Ouais.
Au vu de ces derniers mois et de ce qui s'est passé. Je crois que c'est encore nécessaire de raconter ces luttes-là et de raconter à quel point c'est présent et qu'on peut vite oublier ces choses. Et
puis il y a un truc.
Et il y a aussi l'aspect poétique. Enfin, il y a la politique, mais il y a aussi la nécessité de mettre aussi de la poésie dans la rue qui est racontée. Donc c'est important, ça aussi.
Un aspect un peu dénonciateur, du coup.
Ouais, pour moi, il y a un truc, peut-être dans le parallèle entre les deux époques, il y a quelque chose, je dirais, dans quelque chose qui monte, tu vois, et qui est pas exactement la même chose, parce que à l'époque, c'est très polarisé, c'est très identifié, c'est le nazisme et tout ça. Aujourd'hui, dans mon sentiment, en tout cas, c'est beaucoup plus diffus, mais en tout cas, je crois qu'on est tous obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est en train de monter de l'ordre de la catastrophe. On ne sait pas trop d'où ça arrive, mais c'est en train d'arriver, quoi. Et que là, à cette époque-là, dans cette catastrophe montante, tu as des gens qui se sont levés et qui ont dit « C'est maintenant, en fait. Il faut y aller, c'est maintenant. » Moi, je dirais que le parallèle, il est là, évidemment, sur la question du fascisme et tout ça, mais ouais, plus globalement, quoi, sur cette espèce de capacité à arrêter les choses pour dire « Là, il y a une parole urgente à porter. »
C'est un spectacle, du coup, pour tout public, ou il faut quand même avoir un certain niveau de compréhension, ou peu importe?
Non, je crois pas.
Après, c'est un spectacle qui dure 1h20, en déambulation, où il y a effectivement du texte. Donc après, la limite, elle va être là. Après, il n'y a rien de compliqué dedans. Il n'y a rien de choquant et de... Voilà, donc non, ça peut être...
C'est
tout
assez
monde.
Ludique.
Nous, après, par principe, on raisonne en niveau scolaire et on va le préconiser pour du 10-11 ans parce que c'est là où ils ont une connaissance un peu, ils ont entendu parler un peu de la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses qui leur parlent un peu. Mais franchement, au niveau de l'accès, c'est quelque chose qui est assez dynamique de par la forme et tout, et qui fonctionne. Après, voilà, c'est un spectacle d'1h20 en déambulation.
Moi, je pense que tu peux venir avec tes gamins. Une famille avec des enfants de 6, 7, 8 ans, ça joue. C'est juste des classes entières, oui, il ne faudrait pas amener des classes de 6 ans, ça n'aurait pas de sens.
Non, mais il y a des moments très burlesques où les enfants, je pense que
ça chante.
Avoir ces figures-là, quoi.
Ouais. Non, puis ça permet d'aborder des sujets aussi. Quand on a un drapeau qui ne plaît pas, c'est ça, un drapeau qui ne plaît pas, j'allais le dire, hein. Mais eh bien, ça nous oblige un peu, en tant que parents, à expliquer pourquoi il y a une réaction vive de tous les adultes qui sont là et eux ne comprennent pas pourquoi.
D'accord. Voilà.
Maintenant, c'est... vous venez voir pour savoir de quel drapeau je parle.
Ça nécessite peut-être un travail historique de recherche, non?
Nico, il a fait un énorme travail de recherche historique, clairement. Puis il serait, tu vois, il a toutes les dates, il a tous les... Oui.
Il y a un bouquin de référence, du coup, des textes d'octobre. Et là, il y a une chronologie aussi, qui s'est faite naturellement par les textes. Et voilà.
Super, ben, merci beaucoup d'être venu parler d'octobre. On rappelle les horaires pour les prochaines balades, déambulation avec...
11h demain.
Ah ouais. 11h.
C'est ça.
11h demain.
11h demain. À rue
le départ
Tour.
Est au parking
en bas
de la filature,
ouais, c'est ça.
Juste à côté.
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu parler et puis bon courage pour la suite et pour les prochains spectacles.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
On va faire un twist avec d'autres artistes, c'est ça. Qui est-ce qu'on donc on a Yves évidemment avec qui on va parler un peu de son spectacle Ni Oui Ni No. Et puis après, on aura avec nous trois autres femmes pour nous parler de leur spectacle. Donc Yves, alors comme elles sont pressées, comme me dit, je suis désolée Yves, si tu as le temps, tu peux rester encore un peu avec nous.
Merci.
C'est tellement agréable.
Mais tu vas rester avec nous, tu peux faire aussi un peu animateur, hein, y a pas de souci. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Alors je suis désolée, donc j'ai pas vos prénoms, donc est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors la compagnie, c'est les Harmoniques du Néon. Ouais. Donc moi, je suis Anne-Julie Rollet.
D'accord.
Amandine Banal.
Anne-Laure Pigache.
Super. Eh ben, on va parler de cette compagnie. Vous avez déjà joué des spectacles pour le 48e? Enfin, vous avez déjà commencé à jouer hier?
On a joué ce matin.
Vous avez joué ce matin. D'accord.
C'est notre première fois pour les 48e de route.
D'accord.
Ça s'est bien passé.
Ça marche.
Eh bien, c'est pas mitigé. Ouais. Mais on va peut-être dans le déroulé, on pourra vous expliquer pourquoi.
Oui. Bon, on va d'abord peut-être parler de la compagnie, expliquer depuis combien de temps elle existe. Vous connaissez depuis quand, vous trois, toutes les trois?
Alors Anne-Julie et moi Anne-Laure, on se connaît depuis 2000. La première fois qu'on a bossé ensemble, c'était en 2015. Après, on se connaissait parce qu'on habite Grenoble et qu'on traînait un peu dans les mêmes milieux, comme ça. Quoi. On se connaissait de lointainement et on a commencé à bosser ensemble en 2015. Et Amandine, elle a rejoint la compagnie en 2019. Mais on s'était croisés avant parce qu'on avait été en résidence au lieu où elle travaillait avant, le D'accord. générateur à côté de Paris.
Ok. Alors, vous venez ici pour nous présenter le spectacle Vitrine.
Oui.
Alors, expliquez-nous parce que c'est assez étonnant comme spectacle.
Oui.
Dites-nous.
Eh bien, Vitrine, c'est en fait un regard sur une partie de rue à travers une vitrine. Donc en fait, on décide de mettre le public dans une vitrine et face à la rue. Et donc la vitrine opère comme un écran de cinéma. Et on profite et on s'amuse avec ce qui se passe en réalité. Alors on souligne quelques petites choses, alors il y a tout un travail autour du son, donc moi je m'occupe de la partie sonore, parce qu'il y a des micros à l'extérieur, donc c'est une manière de souligner, de faire vivre l'existant, le réel en fait, mais d'y porter un regard qu'on n'a pas l'habitude de porter.
C'est un spectacle que vous avez conçu ensemble, comment ça s'est, à quel moment on s'est dit tiens on va faire ce spectacle là, pourquoi à cette période là?
En fait, c'est arrivé un peu par dépit, je dirais, face à une situation, comme parfois ça arrive. On devait travailler dans un endroit pour une exposition, faire un showcase, comme on dit, et on n'avait pas d'idée, parce que l'exposition ne nous plaisait pas tellement. Enfin, on trouvait qu'il y avait... Et on s'est mis un peu comme ça, lassivement, à regarder dehors. Et on a trouvé ça génial, ce qui se passait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est beau ce qui se passe dans la rue. Et à travers justement cette vitrine qui vraiment, ce cadre qui est très opérant, en fait, pour raconter une fiction de la rue.
Une fiction que les spectateurs se fabriquent eux-mêmes.
Enfin, oui.
On est presque, c'est un peu une ode au quotidien, donc suivant les lieux, c'est très très différent. Nous, on insuffle juste des petites choses, mais l'idée, c'est de regarder ce qui est, quoi. C'est pas de faire un spectacle qui se plaque sur l'endroit.
Il y a une place très importante donnée au son, j'ai l'impression, non ? J'ai vu les mots musique électroacoustique, poésie sonore. C'est quoi, alors ?
Parce que poésie c'est notre, on va dire, famille,
ouais.
Plutôt. Enfin, même si Anne-Laure, elle est vraiment issue de la performance, moi, il se trouve que j'ai un parcours musical électroacoustique, mais que j'aime frotter avec d'autres, avec des situations très très diverses, ne pas rester forcément dans le champ de la musique ou voilà.
Et donc, pardon, Corto, tu veux dire quelque
et
chose?
Et Anne-Laure, elle est.
Pardon. Moi, je suis plus de. Je sais jamais dans quelle étiquette me mettre. On va dire que la poésie sonore, c'est peut-être l'endroit qui m'est le plus propre au sens un peu des premiers temps de la poésie sonore où le principe est de jouer et de détourner le langage. Et par ailleurs, j'ai un parcours de performeur avec différentes compagnies et notamment pour ce spectacle-là.
D'accord.
Ça veut dire que pendant Vitrine, le son il est à l'intérieur, mais du coup mais une grosse partie des choses se passe à l'extérieur. Mais est-ce que du coup vous jouez avec les passants qui sont là? Comment ça se fait un peu en improvisation aussi du coup? C'est comment ça se passe?
Oui, il y a beaucoup d'impro. On a un canevas, mais après à l'intérieur de chaque séquence, on improvise, on joue avec ce qui se passe. Et après, moi je suis à l'extérieur et mon rôle n'est pas de faire que les gens fassent autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Les passants continuent à vivre leur vie de passant, mais simplement moi, la manière dont je me positionne dans l'espace, ça fait que ça peut modifier le regard des gens qui sont spectateurs, qui sont dans la vitrine et qui vont se mettre à avoir une récurrence de gestes parce que moi je reproduis des gestes, mais j'interviens pas sur. Enfin, les passants ne se rendent pas compte qu'il se passe quelque chose. C'est plus, je viens en complément. S'il y a deux personnes qui forment un début de ligne, je viens compléter la ligne. Voilà, c'est des choses comme ça très très ténues.
D'accord.
Il y a des histoires de changement de temporalité aussi dans le spectacle, j'ai l'impression. Ça se manifeste comment, du coup?
Eh bien, ça, c'est notamment avec le son. Parce qu'en fait, comme vous le savez, le son, il n'est pas cadré. On peut beaucoup travailler avec le hors-champ, faire exister des choses, étendre des choses au lointain qui n'existent pas, mais qui du coup, existent dans la vitrine. Et du coup, ce cadre qu'on propose, il est fluctuant temporellement en fonction de ce qu'on apporte comme modification. Ou avec un ralenti d'Anne-Laure sur le corps, ou avec. On joue avec le rythme en fait. C'est de la musique au sens peut-être. Je dirais de la musique et de l'écoute au sens vraiment large. Mmh. C'est une écoute. C'est vrai qu'on demande. Aux personnes qui écoutent et qui regardent d'être un petit peu actif, en fait. On travaille ça. Le spectateur, il est là aussi pour s'engager dans une histoire, s'engager dans une situation.
Une écoute.
Vous prenez les gens à partie, du coup, pour les faire venir
Vous voulez dire les gens dans la rue?
Ouais.
Si on prend les gens à partie, très peu.
Okay.
Très très peu. Non. Il y a un moment précis dans le spectacle. Parce qu'il faut bien retourner la situation, parce qu'on est confortable quand même quand on est à 15 dans une vitrine en train de regarder ce qui se passe dehors. C'est parfois très confortable. Donc à un moment donné, on retourne pour troubler qui observe qui est observé en fait.
Concernant la composition de la musique, comment s'est fait le choix? Avec quel instrument vous jouez? Enfin, comment vous jouez justement avec la musique et pour créer ce spectacle-là?
Alors, c'est un instrument particulier, c'est ce qu'on appelle un dispositif électroacoustique. Donc, il y a des micros, il y a un magnétophone à bande, qui est vraiment un vieux magnétophone. Il y a aussi des outils numériques, je travaille avec Live. C'est un mélange et la base principale du projet, c'est de capter, de jouer avec ce que j'entends. Donc de réagir à ce que j'entends, de le transformer. Donc je ne sais pas, je vous donne un exemple très simple, c'est que il suffit, parfois j'amplifie juste la rue. Mais le fait de l'amplifier beaucoup fait que ça tord les choses et je coupe tout d'un coup et donc je crée un vide, voilà, par exemple. Ça, c'est un peu le travail de la musique, quoi.
Vous nous avez dit que c'était... on vous a demandé si ça s'était bien passé déjà, les premières représentations. Mais ça avait l'air quand même d'être complet. Les gens sont curieux quand même d'aller voir ce spectacle-là qui est un peu hors norme, non ?
Eh bien oui, sûrement. Il y a sûrement une grande curiosité. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on demande une forme d'engagement du public. Et je pense que c'est pas... Peut-être il faut peut-être plus l'expliquer... En fait, on sent qu'il y a une attente du spectaculaire. Mmh. Et c'est vrai que ce qu'on fait n'est pas spectaculaire. C'est, enfin, nous, on trouve ça spectaculaire, mais parce qu'à force de le faire, en fait, on trouve ça génial ce qui se passe dans la
C'est des suggestions, quoi. En fait, à la fois le son et moi, on fait plein de suggestions, mais c'est pas, y a pas une histoire, enfin, c'est pas narratif.
Oui, oui, oui.
Du coup, faut vraiment que les gens ils soient dans une certaine humeur. Pour écouter, observer. Enfin, le cheminement, on va dire, de notre écriture amène à ça. Enfin, on essaye, quoi. Mais, par exemple, à un moment donné, parce que tu te mets dans un certain état, juste un palmier qui vibre avec le vent, tu vas trouver ça trop beau. Mais voilà, il y a un peu... nous, notre écriture, elle amène à ça. Et peut-être les gens, ce matin, n'étaient pas au courant que c'était un truc plutôt... Enfin...
Ouais, ouais.
C'est pas le truc où ça court partout, où il y a des pétards.
Si on faisait un mirage juste avant, le contraste peut être un peu compliqué, c'est vrai.
Tout à fait.
C'est vrai qu'on, du coup, c'est pas la même chose, mais c'est pour autant, les messages passent aussi, mais d'accord.
Et puis on est dans un endroit, on est à un endroit d'une rue qui n'a pas une pulsation
débordante.
Voilà, donc c'est, je pense qu'on s'appuie quand même beaucoup là-dessus. Donc là, la pulse, elle est très très lente. Mmh. Enfin, c'est super, hein, mais c'est pas toujours facile, quoi, ces ralentissements. En fait, on est quand même beaucoup amené à être très sollicité tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Ça va vite, quoi. On est beaucoup dans un monde de vitesse.
C'est ça.
Du coup, là, on vient un peu
casser
stopper cette vitesse et ça peut être un peu flippant,
perturbant, hein. Ouais, totalement.
C'est un spectacle qui révèle les lieux. Enfin, on a vraiment ce parti. Je veux dire, on pourrait écrire un truc où qu'on joue ready-made et voilà, c'est tout le temps pareil. En fait, vraiment le parti pris de ce spectacle, c'est de venir révéler un lieu. Donc, en fait, s'il se passe pas grand-chose, moi, à l'extérieur ou Anne-Julie au son, on va pas se mettre à faire des caisses parce que c'est autre chose. Et puis, c'est pas pour ça qu'on. Enfin, c'est pas le spectacle qu'on défend là. Quoi.
On va rappeler peut-être... Ah pardon, quand
les horaires, tu veux dire ?
Ouais, les horaires.
Ouais, je voulais juste demander, vous êtes plus rue ou scène, du coup ?
C'est intéressant. Bien, nous sommes lieu, espace.
Espace-temps.
C'est bien évité.
Non, c'est vrai, on est lieu, espace. Je suis d'accord avec ma collègue.
Bon, ouais, c'est plus large. Bah du coup, ouais, on va peut-être donner les...
Ouais, on va pas vous retenir plus longtemps si vous avez...
On doit aller jouer.
Et ouais, si vous devez vous installer.
Merci encore Yves pour...
Merci.
Ça m'a beaucoup éclairé sur la manière extrêmement différente de concevoir un spectacle, quoi.
Bah oui.
Et le spectacle, c'est pas un truc qui est normalisé. Au contraire, il faut sortir des normes. C'est ce que vous faites, ça a l'air super.
Tant mieux.
Merci.
Vitrine, c'est donc à 20h à la maison du festival. Merci à toutes les trois.
Merci
demain,
beaucoup.
À 12h30, 16h et 18h30.
Super, voilà. Trois autres présentations.
Merci
beaucoup.
Merci.
Alors Yves, ça y est, on va pouvoir parler de ta musique.
Ensuite... Pas de ma musique à moi, non.
Ah oui, si, c'est vrai.
C'est celle de Nino Ferrer.
Celle de Nino Ferrer, c'est vrai. Et donc du coup, on va pouvoir... Yves Proal, mais ton spectacle que tu proposes, là, c'est Nino Ni Oui. Ni Oui, Nino, oh là là, ça y est, j'inverse les
sens. Ça peut se prendre dans les différents sens.
Parle-nous de ton rapport à cet artiste-là d'abord. Quand tu l'as découvert ?
Nino Ferrer, c'est d'abord un contrebassiste. Moi, je suis contrebassiste. Et il n'est pas connu comme contrebassiste, et pourtant, il a fait énormément de spectacles... En tant que contrebassiste, il a joué avec des pointures de jazz, hein, comme Bill Coleman, le trompettiste, comme Nancy Holloway, qui l'a accompagné sur les scènes de l'Olympia, par exemple. Donc, ça a été un contrebassiste reconnu dans le monde du jazz. Et puis, il a abandonné le jazz parce qu'il s'est rendu compte que ça ne nourrissait pas son homme. Et il a cherché dans cette vague yéyé à trouver sa place dans les années 60. Et il s'est rendu compte effectivement que ça ne lui convenait pas du tout. Et donc il a passé le reste de sa vie à chercher sa place, à chercher son apport musical, à se chercher en permanence, sans véritablement s'être trouvé.
Et comment vous êtes venu, vous, à devenir musicien, du coup ? Un parcours similaire à Nino Ferrer ou pas ?
Ouf, non, pas du tout. Non. D'abord, j'adore la chanson. Je suis venu à la musique par la chanson. Hein, et j'ai fait beaucoup de spectacles sur mes compositions de chansons. Et puis je me suis mis à la contrebasse. Et là, actuellement, je fais beaucoup de spectacles en tant que contrebassiste de jazz principalement. Voilà. Et puis j'ai abordé des textes des chanteurs incontournables, quoi. Et notamment Léo Ferré, évidemment, quoi. La Boarte m'a fait venir avec deux autres chanteurs pour c'était quand ? C'était en tout début d'année, en février, faire un spectacle Brel, Brassens, ah oui. Ferré. Voilà. Et l'année d'avant, j'étais venu au 48e de rue pour présenter un spectacle de contrebasse solo à partir de mes propres compositions. Et puis voilà. Et comme la Boarte est constituée de tout un tas de personnes extrêmement attachantes auxquelles je me suis attaché, finalement, ça colle tellement bien que je me sens chez moi. Là, c'est pour ça que ça m'embête pas du tout de rester un peu plus pour
pour discuter. le concert, comment tu l'as imaginé? Des fois, tu es avec plusieurs, mais là, pour Ni Oui Ni Non, tu es tout seul.
J'ai tourné ce spectacle Ni Oui Ni Non longtemps avec un bassiste et un pianiste. Et c'est vrai que ça manque un peu parce que Nino Ferrer, c'est avant tout un bassiste, quoi. Et la basse, on voit bien que ça manque un peu. Mais les circonstances ont fait que j'ai été amené à le présenter seul parce que finalement, quand t'es tout seul, tu perds tant même personne, si ce n'est toi-même, si c'est le cas. Donc c'est bien, quoi. Moi, ça me convient. J'aime bien les spectacles solo. J'adore les spectacles avec d'autres musiciens, mais j'aime beaucoup les spectacles solo. Si tu te rates, c'est de ta faute, quoi. Parce que en essayant de découvrir Nino Ferrer, je me suis rendu compte que c'était un super compositeur avant tout. C'est vraiment un compositeur assez original qui a cherché une voix, la voix Ferré peut-être, à son époque. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup plu, ces compositions. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un style bien à lui, bien particulier. Et voilà. Et souvent, on retient de Nino Ferrer les paroles. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut retenir principalement de lui. C'est plutôt un compositeur qu'un auteur, quoi. Et parfois, ses paroles peuvent paraître un peu légères. Il a fait des superbes paroles sur certaines chansons, hein. Et j'en reprends quelques-unes dans ce récital. C'est un récital, hein. Moi j'aime bien cette forme de chanson. C'est pas un tour de chant, c'est un récital. C'est-à-dire, on prend les chansons les unes après les autres. Je les présente à peine, je dis deux trois petits mots pour qu'on essaye de replacer dans l'époque, etc. Mais c'est vraiment ces chansons qui sont la tête d'affiche. C'est pas moi qui les interprète. Et je suis assez étonné de voir qu'il y a beaucoup de personnes dans l'assistance qui n'ont pas oublié Nino Ferrer, quoi. Et qui le connaissent, bien, et qui connaissent les paroles. Et je finis le spectacle par un incontournable, évidemment, quoi. C'est assez facile de ma part, mais c'est reposant aussi, quoi. C'est le Sud. Et je chante pas, quoi. C'est les gens qui chantent. C'est les gens qui chantent. Et le spectacle se finit comme ça, je trouve que c'est assez chouette.
Et justement, c'est pas délicat du coup de reprendre les musiques d'une icône de la musique française comme ça ?
Écoute, Nino Ferrer, c'est un éternel insatisfait de ce qu'il a fait. Donc moi, je peux être insatisfait de ce que j'ai fait aussi. Hein ? C'est incroyable, Nino Ferrer, il te dit, moi, les disques, je suis content d'aucun de mes disques. Je suis content d'aucun de mes tours de chant. C'était un éternel insatisfait. Hein. Le Sud, on en parlait. 75, il est encore chez Barclay. Il compose le Sud, The South. Et il dit, je veux la chanter en anglais. Barclay lui dit, pas question, toi tu chantes pas en anglais cette chanson-là sur mon label. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il part en Angleterre et il la chante en anglais. Un bide incroyable, ça marche pas du tout, il revient en France, il recontacte Barclay, alors que le showbiz, il a jamais été très friand de ce genre de truc. Et Barclay lui dit, mais écoute, si tu veux la chanter, tu la chantes, mais en français. Il la chante en français, c'est un tube. Et ça lui a permis d'acheter une résidence dans le Lot, pas loin d'ici. Ça lui a permis d'avoir du fric, des Ferrari, pour un mec qui s'appelle Ferrari, c'est pas très étonnant. Mais enfin, il a acheté plein de bagnoles. Enfin, il a eu du fric. Il le dit dans ses chansons d'ailleurs. Hein. Et il a eu des histoires avec le fisc aussi. Mais il a fait du fric incroyable à une période de sa vie, mais c'est pas ça qui l'intéressait véritablement. Ouais. Et il a pas hésité à couper les ponts avec le showbiz pendant plusieurs années, parce que ça lui convenait pas du tout, quoi, le showbiz. Nino Ferrer disait, en France, il y a aucune création possible. Il était vraiment assez négatif, quoi, sur la manière dont le showbiz, finalement, asservissait les artistes. Est-ce que c'est encore le cas?
Dernière question, Yves, une chanson, si tu dois choisir une chanson de Nino Ferrer, est-ce que c'est possible ou pas d'en choisir une là, que tu préfères par rapport aux autres?
Alors, y a une chanson, c'est pas possible de choisir une chanson, mais il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une chanson qu'il a jamais interprétée ni sur scène, ni sur disque. Il l'a interprétée une seule fois en public, c'était dans une émission de vos consoeurs de la télévision qui s'appelait Denise Glaser. Denise Glaser, c'est une animatrice d'émission TV fabuleuse qui a fait passer tous les grands artistes de l'époque, quoi. Et elle a invité Nino Ferrer. Et Nino Ferrer a chanté cette chanson qui montre bien que Nino Ferrer part finalement de la vie quotidienne, par des scènes de vie ou de gens. On a un petit peu de temps pour...
Vous pouvez terminer votre phrase, il n'y a pas de souci.
Mais je vais peut-être faire plus encore.
Oui, c'est surtout laquelle de chanson.
Cette chanson, c'est une chanson qui s'appelle Justine.
Justine, d'accord.
Il y en a qui connaissent. Elle fait comme ça. Elle n'a pas eu de chance quand on y pense dans l'existence. Sa vie fut pathétique, problématique, pathologique. Cela avait commencé le jour de son baptême, car sa tante d'Angoulême s'appelait Zoé. Son père était ivrogne, sa mère indigne, son frère au bagne. Elle était opprimée, abandonnée, désespérée. Mais cette famille perverse lui parut être sublime, car...
Et la suite,
mais alors, l'imagine.
Vous ne pourrez pas la trouver sur Internet parce qu'effectivement.
Ah, d'accord. Merci pour ce petit concert privé. Tout fait plaisir.
Merci.
Voilà, vous la retrouverez en spectacle donc dès demain à midi, place Chaptal, et à 18h30, Itou.
C'est parfait.
Vous me prenez mon travail. Hein.
On va faire une pause musicale et on va justement écouter un groupe montpelliérain qui sera ce soir en partenariat avec 48FM sur la scène à Jean Bonijol ici, c'est Lounz. Allez, c'était Loons, un groupe qu'on va accueillir aussi pour parler de leur groupe. On va d'abord parler de la compagnie Berthe, c'est ça ?
Groupe Berthe.
Groupe Berthe. Donc bonjour Christine.
Bonjour.
Tu es donc dans la compagnie pour présenter le spectacle Silence Féroce. Alors c'est le premier titre, mais il y a un autre titre aussi à Silence Féroce.
Un titre un peu rallongé. Attends, je vais...
Et t'oublieras pas.
T'oublieras pas de bien fermer ta gueule.
Voilà, ouf, comme ça. Comme ça, c'est dit. Alors, de quoi ça parle ce spectacle ?
Du silence.
Tout simplement.
Du silence, qui est de tous les silences qui nous traversent, en fait. Donc, ça peut être le silence entre deux personnes, ça peut être le silence des oiseaux qui n'existent plus, donc ils disparaissent, ils ont du mal à copuler parce qu'ils s'entendent plus dans les parades nuptiales. Ça peut être le silence dans un couple quand on s'entend plus ou qu'on s'écoute plus. Donc c'est aussi beaucoup un travail d'écoute. Ça peut être aussi le silence dans la violence conjugale, tout ce qui est pas dit, le secret, difficile de communiquer avec son papa, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à discuter avec le père, quoi. C'est un sujet. Donc voilà, on traverse plein de silences dans ce spectacle.
Et comment est né ce concept de parler du silence ? C'est quelque chose que toi, déjà, tu as du mal aussi à faire avec ?
Oui, ouais, c'est exactement comme ça que je commence le spectacle, en disant que le silence, c'est la panique. Ouais. Et que un jour, j'ai perdu ma voix pendant 4 jours. Et ça m'a hyper reposée de moi-même, avant tout. Parce que je parle beaucoup, trop. Et du coup j'ai commencé à écouter les autres. Et là, il y a eu un vrai travail d'écoute qui a commencé. Et puis un poète belge qui s'appelle Maurice Maeterlinck aussi, qui a fait un livre, un recueil qui s'appelle Le Trésor des Humbles. Et en même temps, il y a un chapitre qui s'appelle Le Silence. Chaque phrase est sublime, et c'est, il prône le silence, lui, pour le coup. Alors que moi, dans le spectacle, je me bats avec. C'est-à-dire que mes deux partenaires incarnent le silence. Et le son.
Et donc, le silence est personnifié, en fait.
Complètement.
Dans le spectacle.
Complètement. Et du coup, ce silence essaye de se faire une place dans ma vie de femme moyenne, là, qui s'arrête, en fait, sur le bord de la route avec sa voiture. Et je veux pas. J'en veux pas, au début. Et puis, je vais petit à petit lui laisser de la place. Et puis, il y a le son à côté qui intervient régulièrement, évidemment, pour faire de la place au silence.
Du coup, vous avez une place particulière donnée à l'univers sonore ? Pendant le spectacle.
Oui, complètement. Déjà, j'ai travaillé avec des acousticiens sur ce spectacle. À Nantes, on a la chance d'avoir un centre de recherche en acoustique sur la diminution et la cartographie des bruits et des sons, surtout en espace urbain. Donc, c'est des chercheurs avec qui j'ai bossé pendant un an et demi. Je les ai suivis sur plein de travail. Et j'ai travaillé avec une géographe aussi. Et en fait, tout ça était très bien lié et relié. Et j'ai découvert, puisque je travaillais en rue depuis très longtemps, j'ai d'abord utilisé, moi, beaucoup l'espace public au niveau visuel. Et puis là, je travaille sur le paysage sonore, réellement, quoi. Et là, c'est pas tant qu'on en profite beaucoup, mais on en parle. En tout cas, on parle du paysage sonore. Qu'un paysage peut paraître calme alors qu'il l'est pas, ou inversement.
Et du coup, pour construire le spectacle, est-ce que c'est d'abord la musique ou d'abord la chorégraphie ?
Alors, ça, tu touches une question. Enfin, là, tu touches pile poil là où il faut. Parce que je dis, au début du spectacle, je dis, en fait, on attend de moi que je danse en silence en tant que danseuse et chorégraphe, et je suis pas organique, je suis pas assez organique. Et en fait, voilà, la danse contemporaine, elle s'est beaucoup inscrite aussi dans le silence, quoi. Et moi, mon essence, mon carburant, c'est le son. C'est vraiment le son. Et qu'on voit, quoi. Beaucoup d'électro, beaucoup de techno.
D'accord.
Il n'y a pas quelque chose de profitable dans le silence, quand même, des fois ? Ça peut être apaisant ?
Bien sûr que oui. Alors, j'ai beaucoup étudié le silence. J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai lu beaucoup de choses. Les scientifiques prônent 10 minutes de silence par jour pour essayer d'éviter au burn-out, d'aller au burn-out, d'être plus dans l'écoute, justement. En fait, il faudrait qu'on se mette dans le silence une fois par jour, à peu près.
Ah ouais ? C'est intéressant. Et j'ai vu que le spectacle, alors est-ce que là c'est possible aussi pour le 48e, que le spectacle était disponible en audio description.
Oui, alors par exemple là, en l'occurrence, l'audio descriptrice n'est pas avec nous, puisque d'accord. Le spectacle n'a pas été acheté avec l'audio description. Okay.
Mais c'est possible, vous le proposez.
Oui, on le propose à chaque fois qu'on joue. Hein, voilà, donc c'est une personne de plus qui audio décrit tous les moments
que le nous on voit et que le spectateur non ou malvoyant ne peut pas voir, mais parce que surtout la danse en fait, c'est surtout la danse qui est décrite. D'accord. Donc on a travaillé avec cette jeune femme pendant 10 jours pour audio décrire tout le spectacle, la scéno, et on fait toucher les costumes aux personnes non voyantes, on leur fait toucher la voiture aussi puisque c'est le décor du spectacle, et il y a une vraie prise en charge quoi, de avant, pendant et après.
D'accord, ok. Merci beaucoup d'être venu parler du spectacle Silence Féroce.
Merci. Faut signaler qu'il n'y est pas ce soir en spectacle en audio-description, mais des personnes non-voyantes peuvent en profiter parce que même si. Parce qu'on parle aussi beaucoup. C'est un spectacle bavard sur le silence, on va dire.
Super. On rappelle les horaires quand même ?
Oui, du coup, c'est à 17h à l'école Jean Bonijol et ça passe aussi à 20h. C'est bien ça ?
Voilà, samedi et dimanche.
Super. Merci beaucoup, Christine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
On va passer à peut-être un groupe qui fait beaucoup de bruit aussi. Je trouve,
ils n'aiment pas trop le silence non plus.
Ils n'aiment pas trop le silence, je pense. Loons, salut.
Salut, salut.
On a avec nous alors trois, le groupe qui est composé de trois personnes, c'est ça ? Oui. Axel, Elliot,
Elio.
et Antoine. Ok, super. On a écouté d'ailleurs un de vos morceaux tout à l'heure. Vous allez jouer à 21h, 21h30 à l'école Jean Bonijol. Donc vous venez de Montpellier.
Ouais.
Déjà, comment s'est créé le groupe ? Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois là ?
Eh ben, on s'est rencontrés tout simplement au lycée. On est tombés tous les trois dans la même classe en seconde et on s'est rendu compte qu'on écoutait les mêmes choses avec Elio.
J'avais un t-shirt Silver Chair, il a reconnu. Ouais, voilà. Et je me suis dit, c'est impossible que. Quelqu'un qui connaît ce groupe.
Ouais, qui est quelqu'un qui connaît ce groupe.
Du coup, on est devenus potes avant de faire de la musique.
D'accord.
Et voilà.
Et après, on a rencontré une personne un peu calme, un peu spéciale, qui s'endormait souvent en classe.
C'est le troisième compère.
C'est lui.
C'est Axel. Et on s'est rendu compte qu'il jouait de la batterie comme un dieu. Et on a direct sympathisé avec lui. Et c'est comme ça que ça s'est créé, en fait.
D'accord, donc voilà. Depuis la seconde.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Depuis la seconde.
Ok.
Du coup, votre style, apparemment, ça mêle grunge et post-hardcore, c'est ça ?
Bah, en vrai, nous, on sait pas. Enfin, même nous, on sait pas trop décrire.
Ouais.
Bah,
ouais.
C'est.
Ah, si vous deviez y mettre un nom dessus, vous diriez quoi ?
C'est extraterrestre.
Ouais, c'est ça.
On fait de l'alternatif parce qu'on fait pas que du. Enfin,
oui,
on fait pas du grunge, on fait pas
ça
du post-hardcore.
Ouais. Voilà. Bah, c'est rock. Enfin, du coup, c'est assez large, mais bon.
C'est rock, mais c'est pas assez
dans le rock.
Non plus.
Ouais, non, mais.
Mais ouais, c'est.
On peut le mettre dans plein de cases.
Enfin, en fait, on écoute tellement de trucs différents que ça. Enfin, ce qu'on écrit du coup est pas vraiment rangé dans une case.
Ok.
Donc Axel, tu fais la batterie, mais vous ensuite, vous faites quoi ?
Et ben moi, je fais de la basse et du chant. Et Elio, il fait de la guitare et il chante aussi.
Ouais. D'accord. Donc deux chanteurs. Axel, tu chantes aussi, ça t'arrive
non.
ou pas ? Non, pas du tout.
Pas.
donc vous avez créé votre groupe en seconde, c'est ça ?
Ouais.
En même temps que vous vous êtes rencontrés et depuis, c'est l'amour fou, c'est ça ?
Ouais, bah depuis, à la base, le groupe est né juste avant le Covid. Ouais. Et du coup, on a commencé vraiment pile quand il y a eu le premier confinement et tout. Du coup, bah, on a juste composé des trucs. Et quand on s'est revu après le confinement, du coup, on a fait que jouer parce qu'on pouvait pas faire de concert. Pendant plusieurs mois, enfin, pendant un an et demi, on n'a pas fait de concert. On jouait juste dans notre local, juste pour s'amuser, quoi. Et après, voilà, maintenant on fait des concerts et tout, donc on est content.
Ouais.
C'est chouette. Ça a commencé quand les concerts, pour les premiers concerts pour vous ?
C'était en août.
Il y a un an, ouais.
2021, je
crois. C'est ça, ouais.
D'accord.
Et du coup, vous présentez votre premier OP, ça ? Cold Flames ?
Cold Flames, ouais.
Alors, vous pouvez nous en parler un peu ?
Bah, c'est des morceaux, du coup, qui sont nés pendant le confinement, pas tous. Il y a, ouais, deux, trois morceaux qui sont de 2020 et tout. Et après, on a écrit ça sur toute. Ça a traîné sur 2020-2021, l'écriture de l'EP. Et maintenant, du coup, on travaille sur un album et on travaille beaucoup plus à trois. Parce que du coup, vu qu'on était à distance, c'était un peu compliqué de faire tout ça. Mais on s'est quand même débrouillé pour faire un truc sympa. Voilà.
C'est quoi vos inspirations, du coup ?
Waouh ! Bah, la première inspiration, c'est Deftones.
Ouais.
Ça, c'est sûr et certain. Après, on écoute tous des choses un peu différentes, mais on se rejoint tous sur ce groupe Deftones. Et on écoute, enfin, moi personnellement, j'écoute beaucoup de métal, de la musique classique. J'écoute Zaz aussi.
Ah ouais, c'est vraiment les trois trucs qui sont opposés, quoi.
Non, mais ouais. Et après, il y a un côté jazz, tu peux en parler aussi.
Axel ?
C'est le jazz, lui.
Pas vraiment de côté jazz, je dirais, mais il y a un peu inspiré. Mon jeu inspire un peu du jazz et du hip-hop, donc il y a ce côté-là, mais on le retrouve aussi dans Deftones, en fait, ce côté-là.
Avant qu'on commence, lui, il jouait pas de rock, enfin presque pas.
Ouais, c'est Elio, il m'a un peu introduit.
Donc à cause de moi, c'est un gros bourrin maintenant.
Et la musique, comment vous êtes tombé dans la musique? Parce que vos parents peut-être y étaient ou pas du tout, c'est, je suppose que c'est, ça dépend de vous trois.
Pour moi, c'est mon père qui m'a initié. J'ai grandi avec Nirvana, Sonic Youth et tout. Ça fait 10 ans que je fais de la musique et après, ouais.
Après, moi aussi, c'est mon père qui écoutait beaucoup de musique, mais moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas forcément de rock, etc. J'écoutais plus du rap gangsta de jeune, quoi, vous voyez. Et après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, mais les références, je les ai chopées grâce à mon père qui d'ailleurs avait un groupe de musique avec Ludo de 48FM qui s'appelle LVP. C'est un groupe fantastique, très très bon groupe.
Grave de toi.
Grave de toi.
Moi j'ai mes deux parents aussi qui sont musiciens. Ah oui. Mon père il est compositeur et pianiste et ma mère elle est violoncelliste.
Ah oui, donc vraiment.
Vous partez avec un bagage assez conséquent, quoi.
Oui, déjà. Oui. Bon, moi ils m'ont fait écouter de la musique depuis que je suis un fœtus.
Et la scène rock à Montpellier, elle est comment? Elle est dynamique?
Comparée à d'autres villes, en vrai, pas trop. Hein. À Montpellier, s'il y a 2-3 groupes, bah, il y a Unspeakable, il y a Fabulous Chief, je crois.
Il y a Sonic Preacher aussi, qui est pas mal à 7. Mais sinon, le groupe référence de Montpellier, c'est Drive Blind.
Ouais. Ouais. Mais ça joue plus depuis 20 ans, ouais. Mais c'est le groupe qu'il faut absolument écouter. Pour sa culture de musique française.
Et vous vous en inspirez aussi du coup un peu ou c'est différent?
En fait, pour écrire l'EP, on a travaillé avec Rémi, le guitariste de Drive Blind. Ouais. Et il nous a beaucoup apporté sur la construction des morceaux.
Ouais.
Et il nous a beaucoup aidé. Donc on s'inspire un peu.
Du coaching un peu. Ouais. Et nous on est trop contents parce que Drive Blind, on kiffe, on écoute à fond et tout. Et... Genre, travailler avec lui, c'était un peu logique pour nous.
Ouais, la boucle est bouclée, quoi,
ouais,
presque. Hein.
Et voilà, du coup, on est super contents d'avoir bossé avec lui.
Donc là, un EP, un album, c'est ça, bientôt? Vous espérez?
Bientôt, non, mais là, on travaille dessus. Mais on est assez lent, en vrai, on prend notre temps. Et on veut pas s'arrêter d'écrire jusqu'à ce qu'on soit satisfait.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais on peut pas vraiment donner de date.
On écrit plein
que,
et les meilleurs seront choisis.
Ouais, voilà.
On pas vraiment de morceaux filler. Ouais.
Ça arrivera pas tout de suite, mais peut-être dans un an, quelque chose comme ça, je pense, si on est rapide.
Ouais. On se donne un objectif de un an. Si...
Pour ce qui est écrit après, pour le sortir, ça prendra plus.
S'il faut l'enregistrer, il faut... Voilà. Mais on travaille dessus.
Des reprises un peu? Vous faites des reprises ou c'est vraiment que vos compos
Au début, quand on n'avait pas forcément beaucoup de morceaux pour remplir les sets, on faisait des reprises de Deftones.
Ouais.
On reprenait Be Quiet and Drive ou Days of Flume.
Ouais. On prenait ouais, c'était les deux seules reprises qu'on faisait. Mais en vrai, ça a duré 2-3 concerts, après on a arrêté.
Ouais.
Maintenant, on joue que nos trucs à nous.
Et à Montpellier, vous avez déjà joué un peu sur des scènes ou...
Ouais, alors on a joué au Black Sheep, on a joué... D'ailleurs, la salle a fermé à cause de travaux, je crois, parce que c'était pas aux normes. Donc on espère y rejouer bientôt, parce que...
C'est une très bonne salle.
Ouais. Après, on a joué au Domaine d'eau pour la fête de la musique, il y a pas longtemps.
Ah ouais.
On a joué où? On a joué à la Secret Place, on a joué
Radio Campus.
Sur un parking avant d'Argue à côté de Montpellier.
Ça c'était cool.
Ça, c'était cool.
C'est notre meilleur concert, je pense.
Ah ouais, on a adoré jouer sur le parking.
Le parking, ouais.
Après, ouais, je sais pas. Il y avait quoi d'autre? Non, c'est tout, non?
Ouais.
Génial.
Ouais.
Super, écoutez, on va vous remercier d'être venu parler un peu de votre groupe.
Merci,
on vous souhaite
vous.
Bonne chance pour merci ce soir. Et puis 21h à l'école Jean Bonijol.
21h30
pour... Ouais, mais 21h30. Venez à 21h pour boire des bières. Au cas où, voilà.
Venez boire des bières avec nous.
Merci beaucoup. Merci au groupe Lunes d'être venu. Et merci à vous, auditeurs, de nous écouter. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Corto de Radio Barthes d'être venu animer avec moi l'émission.
Ben, merci à vous.
Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.